Menace, une série de podcasts de Charles Copin.
Bien, bonjour Frédéric Ross.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'Orléans-Val-de-Loire Technopole et vous assurez aussi la direction des pépinières de l'agglomération implantée dans les environs d'Orléans. Vous consacrez également à la recherche et à l'enseignement à l'Université d'Orléans. Rassurez-moi, vous dormez de temps à autre, j'espère.
Oui, j'ai la chance d'être en bonne santé et de dormir peu, mais je dors, je vous rassure.
Vous dormez quand même.
Voilà, donc juste pour préciser que j'ai été directeur des pépinières jusqu'en 2018 et qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance de ce lieu, le labo, en fait, je n'ai plus cette direction, mais je travaille toujours avec cette entité.
Très bien, ça devrait vous faire dormir plus alors, si vous avez moins d'activité, mais ça m'étonnerait.
On peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas le cas.
Je m'en doute. Ok. Alors, vous êtes le directeur donc, du Technopole d'Orléans, mais avant ça, vous avez une carrière quelque part. Quel est votre parcours ?
Oui, alors le parcours, il est assez simple et singulier finalement. Après donc, mes études de docteur ingénieur, j'ai intégré un grand groupe dans le monde de la carte à puce, voilà, qui était à l'époque une filiale industrielle du groupe Sligos, qui aujourd'hui est devenu Atos. Et donc, j'ai eu une carrière privée dans la R&D privée et le monde au sens large de la carte à puce où j'ai pu effectivement développer puis manager le développement de systèmes de traitement d'image dans les machines spéciales pour fabriquer la carte à puce avec des activités liées effectivement à l'intelligence artificielle déjà. Et comme j'étais passionné par la recherche, en parallèle, j'ai continué à faire de la recherche en mathématiques appliquées, notamment dans un laboratoire de chimio-informatique à l'époque. Et donc, j'ai grandi à travers deux univers, le monde du privé et le monde du public, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le site orléanais, qui était le centre névralgique R&D du groupe, qui était devenu le groupe Gemalto à travers un certain nombre d'achats. Et donc, j'ai atterri un petit peu par hasard dans le monde de l'innovation, que donc depuis à peu près 13 ans. Voilà.
Très bien. En parlant de Gemalto, vous me rappelez ma jeunesse, hein, parce que j'ai beaucoup écrit sur Gemalto. Et ce n'était pas si simple, surtout à l'époque, quand ils ont été rachetés par des Américains.
Et oui.
Là, c'était différent. Et mon ami Marc Lassus, qui est toujours un ami, qui était président, ça lui a coûté très, très cher d'avoir affaire à un fonds de pension.
Et oui, c'était une vraie entreprise. Moi, quand je suis entré, une vraie entreprise de techniciens, mais au sens le plus pur. Et c'est devenu quand même une entreprise de finance. Voilà.
Eh oui, hélas, c'est ce qui tue bien souvent la créativité. Alors, vous êtes donc directeur du Technopole d'Orléans. Quelles sont ses activités ?
Alors, l'objectif générique de la Technopole d'Orléans, mais qui est un peu un objectif de toutes les technopoles en France, qui appartiennent en fait, pour celles qui sont labellisées au réseau RETIS, en fait, c'est de contribuer au développement économique des territoires, mais sur la fibre innovation. Donc, à Orléans, en fait, il y a un certain nombre de technopoles en France, et après, chaque directeur ou chaque conseil d'administration, en fait, fait progresser la technopole dans les voies où il a envie de la faire progresser et liée à son territoire. Nous, sur la technopole d'Orléans, en fait, on a plusieurs activités. On a d'abord l'activité première de l'accompagnement à la création d'entreprises et au développement d'entreprises. Donc avec des porteurs de projets qui n'ont pas créé et qui viennent chez nous pour obtenir un accompagnement qui va leur permettre de transformer leur idée en une structure qui pourra les faire vivre, voire les faire bien vivre. Donc ça, c'est une première activité. Donc sans rentrer dans le détail, on a une diversité de profils. Donc des profils des jeunes, des moins jeunes qui viennent du monde privé, des profils académiques. Et donc tout ça, ça englobe une activité propre. La deuxième activité du Technopole, ce sont les animations d'écosystèmes. À la base, en 1988 pour notre Technopole, L'idée, c'était de rapprocher le monde académique du monde économique, la recherche, et d'avoir ce fameux triangle de la connaissance, la formation, la recherche et l'économie, et tout cela encadré par le monde politique. Donc, une activité, c'est de faire vivre les écosystèmes. Donc, c'est un lieu, vous avez le lieu en soi ici, du labo ou de la Green Labo, mais quelque part, vous avez aussi le lieu virtuel, c'est d'être un hub, un catalyseur de rencontres pour des personnes, ce qui est moins vrai maintenant qu'à l'époque, mais qui ne pourraient peut-être ne pas se rencontrer sans notre existence. Donc en fait, vous avez un lieu où, par année, vous avez une centaine d'animations, et donc c'est un lieu qui vit et qui est un petit peu le hub de l'innovation pour la métropole orléanaise. Donc ça, c'est une deuxième activité. Une troisième activité qui est sur tout ce qui concerne le monde du transfert de technologie au sens large et leur relation aux structures. Alors, sur l'ordinateur, on appelle ça les structures du grand campus, qui sont le CHUO aujourd'hui, qui était CHR et qui est devenu CHU, le BRGM, l'INRAE, l'université, le CNRS. Et donc, on travaille avec tous ces acteurs. Pour divers types de projets, et notamment ce qu'on appelle l'ingénierie de projets structurants, qui est un petit peu une unicité d'un autre technopole. C'est-à-dire qu'on vient nous voir avec une problématique un petit peu feuille blanche, en disant est-ce que vous pouvez nous aider à développer telle ou telle initiative? Et donc ça fait partie de nos activités. Donc peut-être quelques exemples. Hein, une des premières missions de la Technopole était, avec l'aide de partenaires experts, de développer la thématique de l'eau et des milieux associés, qui a donné plus tard un pôle de compétitivité. On a fait émerger un Fab Lab. Donc sur ce lieu-là, vous avez un Fab Lab. Un certain nombre d'initiatives, en fait. Que moi je nomme projet structurant. Un projet structurant, c'est un projet qui crée de la valeur par lui-même une fois qu'il est sorti de sa phase d'ingénierie. Et enfin, on a des filières aussi. Et donc là, aujourd'hui, on a deux filières qui sont actives. C'est la filière qui est portée par le cluster AgriTech Valley, donc sur comment en fait le numérique peut contribuer à faire progresser et à répondre aux enjeux sociétaux de l'agriculture de demain. Voilà, c'est un premier. Et une thématique sur la fragilité. Et donc, ça englobe la silver economy, mais pas que. Comment je peux contribuer à apporter quelque chose à cette notion, à cette fragilité, voyez? Et grâce, effectivement, à l'innovation. Donc, tout ça fait en fait un certain nombre de sujets. Je n'ai pas évoqué, mais c'est un autre sujet, un cluster qui a émergé dans la structure qui s'appelle Nekoé, qui lui va s'intéresser en fait à l'innovation par les services. Alors pour comprendre, à l'époque c'était très innovant. Vous savez prototyper un produit, donc vous avez une visibilité de ce qu'est un produit, mais prototyper un service, c'est un autre métier. Voyez, et aujourd'hui, ce cluster s'occupe encore de sujets d'avenir, qui est l'économie de la fonctionnalité. Je suppose que ça vous parle. Donc, c'est des sujets qui sont, on va dire, émergents et sur lesquels, effectivement, on a besoin d'acteurs pour les faire grandir. Comme l'innovation par les services dans les années 2010 était très nouveau. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connu. Hein. Donc, avant de penser un produit, je pense à son usage. Et donc, j'imagine mes clients, qui sont mes clients, ce parcours. Et donc, vous voyez, tout ça englobe beaucoup de sujets autour de l'innovation et c'est passionnant. Sans oublier aujourd'hui le développement de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir la désertification médicale partout en France et particulièrement sur notre territoire. Et donc, il y a des initiatives structurantes autour de cette thématique de la santé. On n'a pas toujours les réponses sur tous les sujets, mais en tout cas, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice.
Et c'est là où on entend parler de télémédecine, de téléconsultation. Télémédecine, c'est un mot quand
Oui.
même un peu usurpée quand même. Donc la téléconsultation, on parle de la façon dont l'intelligence artificielle peut très bien analyser des radios. Ça se fait de plus en plus, etc.
Aujourd'hui, oui, il y a sur le domaine. Alors, c'est un domaine, le domaine de la santé, qui est très actif dans la recherche, hein, et notamment si on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle a apporté beaucoup au domaine de la santé et notamment sur la recherche de tumeurs, sur, ben, il y a un tas de sujets sur l'analyse des électrocardiogrammes, sur la prédiction. Il y a énormément de recherches qui se font dans ce domaine. Et l'intelligence artificielle fait partie des technologies qui ont apporté quelque chose. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a certaines intelligences artificielles qui font des diagnostics supérieurs à ce que font des experts. Donc voilà. Alors, l'objectif n'est pas de remplacer des experts, bien entendu, mais ça apporte en fait une vision différente, un diagnostic, et qui peut permettre à l'expert d'affiner sa décision et en tout cas d'aller plus vite. Vous voyez, c'est un exemple. La télémédecine, effectivement, on peut en parler aussi. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop non plus le terme, mais quelquefois, vous allez chez le médecin, vous discutez 5 minutes, vous racontez un petit peu votre pathologie, et très rapidement, il est capable de vous estimer ce que vous avez et de vous prédire, voilà, vous dire, ben voilà, tu vas prendre tel et tel médicament et ça va aller mieux. C'est vrai que dans beaucoup de cas, je ne vais pas dire qu'encore une fois, l'intelligence artificielle peut remplacer le médecin, mais dans beaucoup de cas, en fait, vous avez un niveau de diagnostic qui est tel qu'on peut imaginer que ça permette de soulager les médecins, d'accélérer. D'ailleurs, dans les années 80, il y avait un système expert qui s'appelait Lysine qui faisait déjà ça. Alors aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire pourquoi il n'a pas été généralisé, pourquoi il n'existe pas. Il y a sûrement aussi des aspects financiers autour de ça. Mais en tout cas, on avait déjà intégré le savoir-faire expert dans ce système qui était capable de faire un diagnostic et d'indiquer aux patients tel ou tel médicament, voilà, de préconiser déjà des traitements. Donc ça existait déjà.
Oui, j'ai lu récemment qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait prévoir un infarctus 10 ans avant.
Oui, alors moi je mettrais quand même quelques bémols à ça, mais potentiellement, on peut, avec une certaine probabilité, avec un certain risque, permettre de dire avec l'IA, de partout l'historique en fait des patients, effectivement, de faire une prédiction. Voilà. Après, l'IA n'est pas magique.
Non, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui se développe fortement, ce sont les jumeaux numériques.
Oui.
Par exemple, puisqu'on a réussi à numériser la Terre, et on peut faire des expériences avec le jumeau numérique de la Terre pour voir si on déplace par exemple un cours d'eau, quelles sont les conséquences avant de le faire, quoi. Donc c'est le rôle de la prévision qui est
indispensable. Oui, alors le jumeau numérique, il faut le voir comme un miroir de la réalité, mais un miroir simplifié. Un miroir simplifié sur lequel effectivement on peut agir. Alors, si on revient au monde de la médecine et de la santé, on a réussi à faire un jumeau numérique du cœur, ce qui n'est pas si simple à faire, et donc de pouvoir faire des prédictions en fonction de scénarios, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. En fait, vous avez votre cœur qui fonctionne dans sa normalité et vous imaginez un scénario. Et quelque part, avec ce scénario, vous pouvez faire des prédictions. Alors, les jumeaux numériques aujourd'hui sont bien développés, on va dire, dans le monde industriel. Pourquoi ? C'est parce qu'ils sont. Le miroir est peut-être un peu plus facile à faire. Et il y a des initiatives, et notamment dans notre région, avec le BRGM et quasiment tous les centres de recherche liés de plus ou moins loin à cette thématique environnementale, il y a le développement de jumeaux numériques justement dans le domaine environnemental. Voilà, notre problématique des nappes de bosse, par exemple, et voilà, comment je peux... Ou encore un jumeau qui pourrait prédire, anticiper des temps de sécheresse un petit peu plus en avance que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais pour faire un jumeau numérique, il faut intégrer beaucoup de connaissances. Donc de la connaissance qui est experte ou de la connaissance qui est, comme dans notre jargon, data-driven, c'est-à-dire qu'on a un historique de data qui nous permet de comprendre tout ce qui s'est passé dans un environnement passé et grâce à cette expérience, cet apprentissage, pouvoir faire des prédictions.
Oui, et puis dans la santé, par exemple, un chirurgien peut s'entraîner sur un cœur, son jumeau numérique, avant de vraiment opérer. Alors ça évite les problèmes qu'on a aujourd'hui où un chirurgien, il a du mal à situer exactement l'endroit de la tumeur, il va détruire un peu autour. Parce qu'avec le jumeau numérique, il va directement sur la tumeur.
Oui.
C'est quand même assez
important.
Et là,
ça va même au-delà du jumeau numérique, cet exemple, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait aussi, mais ça existe par contre depuis longtemps, dans les simulateurs d'avions. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, l'aéroport d'Hong Kong était un aéroport extrêmement, pas dangereux, mais en tout cas qui faisait peur beaucoup aux pilotes parce qu'il était très petit. Et donc, vous aviez des simulateurs où vous étiez en situation. Et donc, comme effectivement un jumeau, hein, mais plus que ça, donc vous pouviez vous entraîner avant d'aller sur Hong Kong.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut s'entraîner sur la même chose, vraiment son jumeau 100%, mais sans risque.
Oui, alors c'est exactement ça. Alors après, le jumeau n'est jamais 100%. Et justement, c'est l'intelligence des gens qui construisent les jumeaux de définir quelles sont les caractéristiques essentielles qu'il faut pouvoir répliquer pour pouvoir analyser et prédire. Vous voyez, dans le domaine environnemental, c'est faire un jumeau de la Loire, par exemple, ça serait quelque chose de très très compliqué. Par contre, faire un jumeau simplifié, ça peut être imaginable.
Alors, que pensez-vous de l'IA générative?
Alors, l'IA générative. Alors, il faut bien comprendre que le monde de l'IA, depuis les années. Alors, l'IA, ça a commencé dans les années 50. Et donc, vous avez des dates clés, un petit peu, et dont l'IA génératrice, qui est arrivée dans les années 2016, les premiers. Et donc, c'est une IA qui est très différente de l'IA qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc tout à l'heure, nous avons parlé de prédiction, de diagnostic, de compréhension de phénomènes. L'IA génératrice, donc génératrice, ça veut dire que quelque part, on génère quelque chose qui n'a pas existé. Et donc cette IA-là, elle est un peu révolutionnaire. Et donc là, il y a énormément de personnes et de chercheurs qui s'intéressent à l'IA. Parce que bah, depuis les années 2016, par exemple, hein, ce qui a fait beaucoup, on arrive à fabriquer des visages qui n'ont jamais existé. On arrive à fabriquer des tableaux qui n'ont jamais existé. À partir d'un petit croquis, on est capable de générer un croquis de sac, par exemple, qui est fait de manière très balbutiante. On est capable de générer un nouveau croquis. À partir de le dessin d'un château, par exemple, gribouillé, on est capable de vous construire un château qui n'a jamais existé. Et donc ça, en fait, on peut se poser la question, justement, cette IA qui répliquait, qui permettait de prédire, de diagnostiquer, de classifier, c'est une IA qui fait quelque chose de nouveau. Et donc, en fait, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on arrive dans l'ère de ce qu'on appelle l'IA forte ou est-ce qu'on reste dans l'IA faible? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de temps encore pour arriver à avoir cette fameuse IA qui ferait mieux que l'humain, vous voyez. Mais c'est quand même une vraie révolution. Et derrière, il y a eu du génie dans les personnes qui ont inventé cette IA, vous voyez. Parce que pour inventer cette IA, dans l'IA d'aujourd'hui, en fait, une des révolutions qui n'est pas celle de l'IA générative était de pouvoir traiter des gros volumes de données. Mais pour traiter des gros volumes aujourd'hui, pendant 40 ans, on a fait de la recherche avec des gens excellents qui étaient capables de développer des algorithmes, qui travaillaient sur des petites bases de données, des algorithmes extrêmement sophistiqués, mais avec le big data. Eh bien, on a des grands volumes de données, de l'hétérogénéité, et notamment en traitement d'images en 2012, en fait, sur une très 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 grande base de données d'images, on était capable, sans intervention de l'humain, de construire un système à base d'apprentissage qui était capable, sur une photo, de dire c'est un chien, c'est un chat, c'est un perroquet, c'est un bateau, etc. Et donc ça, c'était déjà une révolution.
Mais l'histoire des chats, une petite parenthèse, vous connaissez Luc Julia, qui est un spécialiste, enfin qui a été à la base de Cyril.
Oui.
Il disait que c'est très bien, au début, on avait fait un très gros ordinateur pour justement différencier un chat d'un chien. Mais il a fallu stocker 100 000 chats pour que l'ordinateur puisse expliquer. Alors qu'il disait, et moi, ma fille, je lui présente deux photos de chats, une photo de chat, une photo de chien, elle va trouver tout de suite qui est le chat et qui est le chien. Donc l'intelligence, voilà, il mettait en doute l'utilisation du terme intelligence pour l'intelligence artificielle.
Oui, alors c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle de l'IA faible. Et le monde du deep learning va marcher d'autant plus qu'il va avoir de grandes quantités de données. Par contre, le raisonnement ou le processus qui permet d'aboutir à la décision du chat ou non-chat, eh bien, de plus en plus, en fait, on essaye de se rapprocher, c'est presque un jumeau, de la manière dont ça se fait dans notre cerveau. Parce que, effectivement, alors, c'est le réseau de neurones artificiels, en fait, qui a été inventé il y a très longtemps, hein, il part à la base du réseau de neurones biologiques. Et ces signaux qui se transmettent à travers des neurones et des couches de neurones, et qui se retransmettent, vous voyez, avec quelque part un certain nombre d'opérations de filtrage qui permet au bout d'un moment vous arriver à... Donc en fait, je suis d'accord avec vous sur le temps pour dire c'est un chat, etc. Mais aujourd'hui, avec le progrès aussi et la rapidité des processeurs, eh bien on est capable aussi d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage et d'aller beaucoup plus vite dans la décision. Néanmoins, on a quand même un grand débat. Parce qu'aujourd'hui, les plus grosses IA, celles qui font parler le plus, etc., sont énormément énergivores. Voilà. Et donc, qui dit énergie contre l'environnement, etc. Et un des grands chantiers aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs chantiers dans l'IA aujourd'hui. Il y a le chantier de l'explicabilité, c'est-à-dire essayer de comprendre comment l'IA a pris sa décision. Vous voyez, ChatGPT, par exemple, est incapable de vous expliquer comment il prend ses décisions. On sait expliquer comment on lui a appris, mais on ne sait pas expliquer ça. Donc ça, c'est un premier chantier. Et le deuxième chantier, qui n'est pas simple du tout, c'est ce qu'on appelle l'IA frugale. C'est-à-dire essayer de construire des IA performantes tout en étant dans un esprit de frugalité. Et donc, je ne vais pas dire qu'il y a un retour en arrière, mais quelque part, il y a eu des merveilles qui ont été faites avec des grands volumes de données, des superbes grosses architectures, où d'ailleurs seuls les GAFAM peuvent se payer en fait ce type d'ordinateur. Et aujourd'hui, on est en train de regarder comment on pourrait mieux utiliser le savoir-faire expert, comment on pourrait hybrider en fait ce savoir-faire expert avec les data. Il y a une pour faire de la frugalité aussi, au lieu d'avoir des millions et des millions de données qui sont prises à l'aveugle. Est-ce qu'on ne serait pas capable d'en sélectionner des plus qualitatives? Et d'où encore l'intervention de l'humain? Donc ça, c'est vraiment l'objet de la recherche d'aujourd'hui.
Et oui, parce que le problème, c'est que l'IA, qu'elle soit générative ou pas, elle va chercher dans les données existantes. Or, on sait que sur Internet, il y a aussi des fake news.
Exactement.
Voilà. Et donc ça, c'est le gros défaut de l'intelligence artificielle. Moi, je le vois quand j'utilise ChatGPT ou Bard de Google. Il y a des réponses sur des sujets que je connais qui m'épatent un peu. Quoi. C'est pas,
oui,
pas
alors,
du tout, hein.
Effectivement, ces outils génératifs, hein, comme dans ChatGPT, hein. ChatGPT est issu d'une technologie qui s'appelle les transformers, qui sont nés dans les années 2016-2017. D'ailleurs, cette technologie qui permet aujourd'hui d'avoir des systèmes de traduction quasiment simultanés et de manière exceptionnelle, voilà. Donc il faut le comprendre, mais ChatGPT, effectivement, c'est un outil conversationnel qui marche sur la base de statistiques et de tout ce qu'il a appris, voyez. Mais un autre exemple en médecine, par exemple, c'est très difficile d'avoir, autant vous pouvez avoir plein de patients qui n'ont pas de pathologie, mais pour avoir la diversité des pathologies, et avoir une base qui est représentative, c'est quelque chose qui est compliqué. D'où encore l'idée de générer des cas virtuels et d'être plus qualitatif dans les bases de données qu'on utilise. Donc ça, tout ça, c'est aujourd'hui, donc, dans les notions l'IA, quelque part, on apprend. La notion d'apprentissage, vous voyez, vous avez l'apprentissage dit supervisé, j'ai un professeur, non supervisé, le renforcement learning, qui est un autre type d'apprentissage, mais vous avez des tas de nouveaux types d'apprentissage, justement, semi-supervisés, qui permettent de faire intervenir l'humain, justement, pour avoir des outils beaucoup plus efficaces d'IA, et aussi dans la frugalité.
L'intelligence artificielle, c'est un système qui risque de modifier les métiers, oui. En tout cas de prendre la place des personnes qui faisaient ce métier, ou est-ce que ça se limite à des tâches bien précises ?
Alors là, je vais avoir deux discours, parce que de toute façon, je serais bien prétentieux de dire ce que ça va devenir. Mais je prendrai d'abord pour dire que des révolutions industrielles, il y en a eu un certain nombre au cours des années, notamment celle qui a amené l'automatisation, la robotique pour les tâches difficiles et qui ont apporté beaucoup de choses. À l'époque, si vous regardez l'histoire, beaucoup de gens avaient peur de perdre leur travail. Donc effectivement, il y a un certain nombre de métiers qui ont disparu, mais aussi on a amélioré la pénibilité des gens. Voilà, donc ça c'est déjà pour dire, il ne faut pas voir ça que négativement. La différence entre ces révolutions de l'époque et peut-être la révolution de l'IA, et c'est pour ça peut-être que notamment en France et en Europe, on a beaucoup plus peur que dans les pays asiatiques par exemple, hein, si on fait une comparaison, c'est que cette IA, en fait, elle est arrivée à un niveau où quelque part, elle peut toucher, on va dire, le métier des cols blancs, on va dire, de pas forcément les cadres sup, A++, ceux qui sont créatifs, etc. Mais tous ces, on va dire, ces assistants, ces ingénieurs d'études qui finalement font du bon boulot, mais du boulot qui est, on va dire, un boulot plus d'assistant ou d'ingénieur d'études et qui est réplicable. Donc, effectivement, l'IA, on va dire, la menace, si on parle de menace, ça serait qu'un certain nombre de métiers, effectivement, n'auront potentiellement plus de sens d'être. Par contre, ça va développer aussi de nouveaux métiers pour les utiliser. On a oublié de dire qu'aujourd'hui, l'IA, effectivement, on arrive à faire des choses qui sont impressionnantes, mais que c'est plutôt difficile à utiliser, que les systèmes sont complexes, etc. Donc moi, je dirais que, effectivement, en fait, la différence avec avant, c'est que ça touche le monde des cols blancs. Donc voilà, le métier par exemple du comptable, pas de l'expert comptable, vous voyez la différence, hein, le métier du comptable, le métier de l'assureur, tous ces métiers-là où il y a quand même beaucoup de répétitions, effectivement, une bonne IA peut permettre de les remplacer. Par contre, il faudra forcément les utiliser. Donc dans ce sens-là, un certain nombre de métiers, il faut être objectif, dans les 10 ans à venir, les métiers vont évoluer. Donc effectivement, il y aura des métiers qui n'existeront plus, mais il y aura d'autres métiers qui vont venir les remplacer. Et moi, je vois l'IA comme un accélérateur de production aujourd'hui. J'essaye d'avoir le côté optimiste, hein, un accélérateur de production. Et peut-être, si ça peut permettre d'avoir une meilleure vie tout en étant aussi efficace, pourquoi pas. Mais ce qui est important, par contre, et ça c'est vraiment important dans les menaces, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les IA, c'est d'avoir une éthique autour de l'IA, de la réglementation, du contrôle. Vous voyez, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dû retirer leur IA, par exemple, celle qui consistait à remplacer un DRH sur un recrutement. Eh bien, on s'est rendu compte, dans une grosse entreprise, que l'IA qui avait été mise en place, effectivement, elle était très efficiente, elle permettait de faire des bons recrutements, sauf qu'elle était discriminatoire. Voilà, donc il y a, on va dire, oui pour faire avancer l'IA, mais dans un cadre qui est contrôlé. Et attention, je vais faire le parallélisme avec le développement du numérique dans les entreprises. On pourrait dire, je ne suis pas pour le numérique, sauf que les entreprises qui ne vont pas vers le numérique sont vouées à terme à mourir. Donc là, l'IA, c'est un petit peu la même chose. Bien sûr, il faut arriver à le mettre dans un cadre et... Il y a 4-5 ans, j'étais dans des tables rondes avec des juristes et il y avait quand même beaucoup de vide juridique. au niveau français, mais au niveau européen, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc le cadre va venir. Maintenant, il ne faut pas que ce cadre il soit trop rigide pour empêcher ce développement. Parce que là, par contre, ça serait vraiment une pénalité pour l'Europe par rapport à d'autres continents.
Très bien. Juste une dernière question. Ce serait bien qu'il y ait un ChatGPT ou un Bard ou un autre, mais qui va puiser ces informations sur une base de données privée de l'entreprise, par exemple. Est-ce que ça peut,
alors,
ça existe ?
Oui, mais en fait, aujourd'hui, vous avez la version, on va dire, commune de ChatGPT, dans lequel, effectivement, toutes vos questions sont connues du grand public, etc. Mais il faut savoir que ChatGPT, il y a du génie derrière ChatGPT. Même si on connaît les technologies qu'il y a derrière, en fait, vous avez des versions payantes, thématiques, dans lesquelles, effectivement, en payant, vous pouvez avoir votre ChatGPT avec vos données privées. Donc, en réponse à votre question, moi, je ne les ai pas utilisées, je ne les connais pas forcément, mais ça existe déjà.
Ben, merci Frédéric Ross pour cet entretien et votre accueil.
Merci beaucoup.